Aligre FM 93.1, il est 11h, nous allons tout de suite retrouver les infos, vous en présentées par Laure Bourru et Stéphie Bénéa.
Bonjour à tous, commençons tout de suite cette édition avec Cécilia Sarkozy qui s'occupe du dossier des infirmières bulgares.
La femme du président de la République, accompagnée de Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, est partie pour Tripoli. En effet, ils devraient eux-mêmes raccompagner les infirmières bulgares dans leur pays. Ils sont partis dimanche matin secrètement pour négocier cette extradition avec le colonel Kadhafi, après que la peine de mort des 5 infirmières et du médecin bulgare ait été commuée en prison à vie.
Et hier, un autocar transportant des pèlerins polonais s'est écrasé dans un ravin au sud de Grenoble. L'accident a fait 26 morts et 24 blessés, dont 14 en état critique. Le président polonais s'est rendu au chevet des blessés en compagnie de Nicolas Sarkozy. Ce dernier a d'ailleurs affirmé que cette catastrophe épouvantable ne resterait pas sans conséquences.
En Turquie, avec un taux de participation de 90%, les islamistes modérés ont été plébiscités dimanche lors des législatives anticipées. L'AKP, le parti de la justice et du développement du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, a obtenu une belle victoire. Le Premier ministre turc a appelé à l'unité et s'est engagé à respecter les valeurs républicaines, dont la laïcité. Ce résultat va permettre à l'AKP de gouverner seul, puisque les projections montrent que le parti détiendrait environ 330 des 550 sièges que compte l'Assemblée nationale. Toutefois, l'AKP ne devrait pas avoir assez de députés pour élire seul le président. Par conséquent, le bras de fer avec les autres mouvances islamistes n'est pas terminé.
Et samedi a été élue la première femme présidente de l'Inde, Pratibha Patil. Candidate du parti du Congrès au pouvoir, elle a été élue avec 2/3 des suffrages à l'âge de 72 ans. En Inde, le pouvoir exécutif appartient au Premier ministre. Cependant, le président a une influence dans la formation des gouvernements au niveau national et local. Et en Égypte, découverte de la plus grande forteresse de l'époque pharaonique. Le pays a annoncé hier cette découverte en bordure du Sinaï. Les deux forts également mis à jour s'intègrent eux aussi dans un ensemble de fortifications allant jusqu'à l'actuelle bande de Gaza. Cette forteresse était destinée à la défense de la cité du pharaon Ramsès II.
Un point sur la météo pour terminer, avec de la pluie et des orages toute cet après-midi, les températures ne dépasseront pas les 20 degrés.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous écoutez Aligre FM 93.1 et tout de suite, retrouvez Petite Compagnie deviendra grande, présentée par Nicolas Vidal.
Aligre FM 93.1. Téléphone 01 40 24 29 29.
Monsieur Lindsay, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est une radio, mon garçon.
Ouais, et qu'est-ce que ça fait ?
Tu veux me faire croire que tu ne sais pas à quoi sert une radio ?
Si, mais j'en ai jamais vu une comme celle-là avant.
Personne n'a jamais vu une radio comme celle-là. Il s'agit en effet d'une radio qui ne ressemble à aucune autre.
Aligre FM 93.1. Téléphone 01 40 24 29 29.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1, il est 11h05, c'est Petite Compagnie deviendra grande, avec au menu du jour Thierry Samitier. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va et vous ?
Bien, merci.
Donc... Sauf qu'il pleut un peu et ça a un impact sur mon état émotionnel, mais c'est pas grave, on va faire avec.
Sur celui de tout le monde. tu viens nous parler d'un spectacle qui s'appelle Embrassez-moi, qui se joue en ce moment au Palais des Glaces.
Tout à fait.
Voilà, donc on va
Je pense que c'est le truc qu'il faut pas rater.
Ah, il faut aller voir. C'est vrai qu'il faut aller voir. Et en face, Véronique Hubert. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Donc Véronique, on va te présenter comme artiste,
bah oui.
Puisque tu as beaucoup d'activités.
Oui.
Là, en l'occurrence, tu viens nous parler d'un disque qui sort,
oui,
qui s'appelle Ampli Sexy.
Tout à fait.
Voilà.
Est donc édité
par Station Mir, un laboratoire audiovisuel en Basse-Normandie à Hérouville-Saint-Clair.
Ah bah comme ça,
retour
c'est
à Paris.
Bon, on va parler de tout ça dans un instant, mais on écoute d'abord Au revoir Simone avec The Lucky Man. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, ces petites compagnies deviendra grande, en compagnie de Véronique Hubert et de Thierry Samitier. Alors Thierry, on va commencer par toi. Tu viens nous parler de ton spectacle qui s'appelle Embrassez-moi, qui se joue au Petit Palais des Glaces, du mardi au samedi à 20h.
Oui.
Alors c'est quoi ce spectacle? De quoi ça parle?
Oh la vache, alors ça c'est hyper dur, c'est hyper dur.
C'est pour ça que je commence
comme
toujours.
Ça, c'est vraiment comme me faire un croche-pied pour que je m'éclate la tronche par terre. Vraiment,
c'est le l'intérêt.
Truc dans le vague, dans le flou comme ça. Je sais pas, c'est un mec qui...
Déjà, est-ce que c'est un besoin d'amour? Embrassez-moi, déjà, si on voit ce nom.
Ah bah ouais, forcément, il y a un manque. Sinon, on dit pas embrassez-moi. Je veux dire, je pense que Leonardo DiCaprio, par exemple, doit dire rarement embrassez-moi. Il doit dire au contraire, non, ne m'embrassez plus, quoi. Oui, je pense que c'est un mec qui est en avidité, en manque d'amour, mais qui porte une espèce d'autodérision, c'est-à-dire de double conscience, qui fait que il arrive toujours à travestir les relations dans lesquelles il se trouve pour les rendre humoristiques, on va dire. C'est une espèce de décalage.
Il est vraiment conscient justement de ça ou est-ce que c'est malgré lui?
Il, moi, je ne sais point. Je pense que oui, il a une forme de conscience. Sinon, ça serait pathétique. Je pense que justement, ce qui le rend, j'allais dire, fort et ce qui contrebalance sa vulnérabilité, c'est le fait qu'il arrive justement à avoir une espèce d'extra conscience qui le fait, je veux dire, aller plus loin, trop loin, quoi. Je veux dire, on peut l'imaginer, par exemple, en train d'attendre un coup de fil d'une nana qu'il espère et il va essayer d'avoir une conscience. Ou qui va faire que finalement tout paraît drôle, c'est-à-dire que tous les écueils de nos attentes, de nos avidités sont tout de suite déformés, transformés et puis drôles.
Ouais. Et comment t'es venue cette idée de spectacle en fait, qui parle globalement d'amour en fait d'un homme.
J'avais écrit donc avant une comédie qui s'appelle Ta gueule je t'aime et qui donc là était une comédie à deux personnages et c'est une espèce de réappropriation. Je me suis rendu compte que en fait lorsqu'on écrit pour deux personnages on est les deux personnages, c'est-à-dire que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si un type écrit une comédie à 20 personnages, il est les 20, c'est-à-dire que c'est 20 parties de lui-même et 20 petits miroirs et qu'on ne peut écrire que ce qu'on est en fait. Et là je pense que j'ai eu certainement besoin de me réapproprier, j'allais dire, mes propres failles et ne les exprimer sur un seul personnage, quoi. Comme ça, je n'insulte plus les comédiens qui jouent avec moi, je m'insulte moi-même. À un moment, il faut le faire.
Est-ce que tu insultes les comédiens?
Non,
les
mais
comédiennes
j'ai parfois eu des exigences terribles qui ont fait de moi un dictateur. Et donc voilà, je me réapproprie, je me ramène le blâme à moi-même. Donc je suis entièrement responsable de tout ce qui arrive, de mes échecs, de mes succès. Et je pense que parfois c'est bien, quoi.
Alors toi Véronique, justement Thierry parlait du fait de qu'il mettait une part de lui-même un petit peu dans tous les personnages qu'il crée. Est-ce que toi dans tes dessins, dans tes peintures, puisque à la base tu es artiste, on va dire, dessinatrice, tu as beaucoup d'activités qu'on développera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une partie de toi dans chaque œuvre que tu crées?
Mais c'est bien parce qu'effectivement au moment où Thierry parlait des facettes et des miroirs intérieurs, je pensais à ça exactement, une phrase qui résume pas mal, et d'ailleurs qui était un point de départ, mon travail qui était « Nous sommes plusieurs à l'intérieur ». Et c'est vrai que parmi la cosmologie, en restant modeste, des personnages que j'ai mis en place pour parler de ce quotidien, de ces côtés ridicules et grandioses en même temps, les phases par lesquelles on passe tous les jours, j'ai créé différents personnages que j'assume entièrement puisque je suis tous ces personnages.
Ouais.
Donc oui, en effet, on les retrouve dans les dessins, dans les vidéos, même dans les soirées que je propose, dans lesquelles je fais intervenir d'autres artistes et qui me suivent dans une complicité de fiction, en fait, en fonction du personnage qui intervient lors de ces soirées. Voilà.
Alors toi, Thierry, le personnage que tu campes peut être relativement odieux et en même temps très touchant. Alors comment tu arrives justement à gérer tout ça? Parce que par moments, on se dit que c'est pas possible qu'il arrive à dire des trucs comme ça, quoi.
Je pense que c'est simplement la prolongation de la vie. C'est-à-dire que, en fait, je me retrouve dans des situations... par exemple, il y a un type qui dit, voilà, j'étais vendeur saisonnier chez Darty, et puis en juillet, et puis elle s'approche de moi hyper sûre d'elle, elle me demande le rayon des cafetières. Je lui dis, je suis vraiment désolé, mais j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Il me dit, non, vous n'avez pas compris, je voudrais savoir où se trouvent les cafetières pour faire du café. Je lui dis, non, n'insistez pas, je suis très amoureux de ma copine, vous m'auriez dit ça il y a 3 mois, j'aurais peut-être répondu peut-être, mais là, même avec un couteau sous la gorge, ça va pas être possible. Donc, elle insiste, etc. Et en fait, à la base, je pense que c'est simplement la prolongation d'une espèce de fantasme où j'ai dû me retrouver seul et où j'ai demandé à une fille le boulevard Montparnasse alors que je savais très bien où il était et où j'ai inversé les rôles et fantasmé l'espèce de suite, quoi. Mais je pense que le personnage est porteur d'une espèce de d'insolence, mais je pense que derrière il y a une espèce de rejet des codes appris, c'est-à-dire que j'avais un papa extrêmement autoritaire, un instituteur et aussi un homme politique. Et je pense que, disons que les auteurs comme Vian, comme Ferré, comme Brassens ont été des espèces de soupapes qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait d'autres codes pour vivre la vie. Il y avait un autre regard possible. Mais bon, ça c'est un discours intellectuel. Mais c'est vrai que lorsqu'on est, j'allais dire, dans la cocotte minute d'une éducation extrêmement stricte, c'est très dur à faire sauter. C'est quelque chose de... Il faut du temps, et en même temps je pense que c'est vraiment la démarche de la vie de s'approprier sa propre voie, mais je pense que ça prend du temps, quoi. Je crois que j'ai été nourri à 14-15 ans de ces poètes, de ces gens-là qui m'ont tracé une route plus libre, plus ouverte et plus proche de moi.
Est-ce que vous pensez l'un à l'autre que pour créer il faut être en rébellion justement contre une autorité, contre... Est-ce qu'on crée contre ou...
Non, je pense qu'il y a un aller-retour constant, je pense, par rapport à un réel, ce qu'on est en train de construire, une intériorité, une sensibilité, une histoire, une actualité. Et effectivement, la rébellion, je ne sais pas, oui, on peut très bien, comme dit Thierry, effectivement, avoir un besoin comme ça de sortir d'un carcan parce qu'on a été bridé un certain temps. Moi, c'était plutôt d'être dans des mondes parallèles parce que c'était le réel en général. Rien à reprocher à mes parents ou à l'entourage ou tout dans ces cas-là, toute la vie. Et c'est effectivement une réaction, je pense, une réaction d'adaptation ou de construction par rapport à ce qui nous entoure. Après, la rébellion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les phases. On peut passer par 10 rébellions par jour et le lendemain, rien du tout. Je pense que c'est en construction, constamment.
Non, je crois que si on est artiste, c'est qu'on a quand même besoin de prouver quelque chose. Je veux dire que quelqu'un qui chante ou qui espère pouvoir chanter devant 1000 personnes, s'il n'avait pas un besoin de se révolter, il chanterait dans sa salle de bain le matin et puis après, il irait travailler au bureau. Je pense que quand même, il y a l'expression d'une blessure, d'un besoin et d'un ego qui font qu'on a besoin d'aller le prouver et l'exprimer, qu'on trouve quelque part là-dedans. Sa force, je pense.
Ouais. Toi, Véronique, par exemple, là, donc, on va écouter un extrait donc, du CD pour lequel tu es là, qui s'appelle Amplisexy. Comment t'as démarré, en fait, au départ ?
Oh là là, c'est le genre de question qui fait qu'on retourne en arrière, le flashback comme au cinéma. En fait, le CD est une conclusion logique d'une histoire. D'abord, il y a eu une soirée au point éphémère en 2005 qui elle-même était une espèce de continuation. C'est un personnage, en fait, Pavel parmi les autres, qui est un photographe musical, qui aurait disparu en 2003. Un site a été créé, justement, où on peut voir les photos des groupes musicaux et qu'il l'a faite depuis 79. Tout ça est une totale fiction. Esthétiquement, je me basais sur les photos que je trouvais dans les magazines musicaux pour faire prendre une pause aux gens autour de moi. Ça peut être des artistes contemporains, comme des musiciens, comme les gens autour de ma famille, etc. Et il y avait un protocole. Et effectivement, je les prenais en photo. Je leur disais, écoutez, c'est cette photo-là qui va être mise en ligne, quel nom de groupe, en quelle année Pavel vous aurait rencontré. Il vient de Spotniavi, évidemment, Pavel, hein, comme Utopia, comme la fée. Donc ce pays.
Parce qu'en fait, tu as un personnage donc, qui s'appelle la fée Utopia. Oui. C'est elle d'ailleurs qui chante.
Oui, d'ailleurs, c'est elle qu'on voit beaucoup plus présente sur le CD, puisqu'elle rend hommage à Pavel qui a disparu. Elle essaye de faire exister Pavel, parce que l'idée de faire disparaître ce personnage, et j'ai eu quelques soucis au début, au démarrage de cette histoire. On a du mal avec ces sujets. C'est-à-dire qu'on soupçonne les artistes d'utiliser des sujets à leur propre compte, alors que je trouve que c'est l'inverse. Puis moi, je n'ai jamais dit que ce personnage avait été enlevé. Ce qui est fabuleux, c'est que vous dites une personne a disparu, vous interviewez les gens, vous construisez une fiction autour de vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et alors là, tout et n'importe quoi est possible, y compris les colères, parce que c'est une angoisse, en fait. Ce qui est important, c'est, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il reste, finalement, l'absence de cette personne qui a disparu, qu'est-ce qu'on en fait, nous qui restons. Et moi, je pensais, bien évidemment, c'était en réaction, pourquoi pas, politique, on va dire, mais je ne veux pas m'avancer trop, par modestie. J'étais traumatisée aussi par ce qui se passait en Tchétchénie. Ayant une enfant moi-même, j'étais complètement obsédée par me dire, mais la disparition... Voilà, quelque chose qui me touchait profondément. Et en même temps, historiquement, je me posais des questions, justement, dans une espèce de paranoïa, de la disparition des gens qu'on ne retrouve jamais. Et effectivement, l'idée que c'est surtout les gens qui restent pour qui c'est le plus difficile et qu'est-ce qu'ils en font. Donc Pavel est parti de là avec quelque chose d'assez pop, le côté musical, ça c'est encore autre chose. Et donc une soirée qui a été construite avec les faux groupes, parce qu'au fur et à mesure, en ligne, on a retrouvé les photos, un faux documentaire que j'ai construit, que j'ai monté, que j'ai filmé autour de ce personnage, et puis Pavel, et puis des clips vidéo avec une bande son.
D'accord.
Donc Emmanuel Delpy, avec qui je travaille sur le CD, m'a permis, grâce à sa musique, je chante effectivement sur ses morceaux de musique, et on s'est associé pour faire ce CD, avec deux autres faux groupes qui sont en complicité sur ce CD. Voilà.
Donc on va écouter... le premier extrait, Ampli Sexy.
In my life, I am not very sexy. En général, je ne suis pas trop sexy. Yo ne taki boyero. Sexy.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, cette petite compagnie deviendra grande. Et on vient d'écouter la chanson Ampli Sexy, donc par Utopia et Simsili, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, ce sont les noms des personnages de cette fiction. Utopia étant une fée ambassadrice qui vient de Spotniavi, que nous ne pouvons pas localiser géographiquement. Mais... Et puis Simsili, donc un groupe danois qui se fait remarquer sur scène parce qu'il porte un bonnet de bain.
D'accord.
Voilà, donc c'est un groupe de musiciens électroniques.
D'accord. Que tu as rencontré comment?
Alors là, si on est dans la fiction, donc ça, j'avais pas pensé du tout. Bah, Utopia a dû les rencontrer lors d'une tournée, du fait qu'elle est ambassadrice quelque part. Non, mais sinon, Emmanuel Delpy est un musicien électronique que je connais depuis pas mal de temps. Et France Valicioni, une artiste critique d'art que je connais aussi, qui a écrit d'ailleurs un texte pour un catalogue. Et donc, c'est une complicité. Mais ça, c'est un peu normal, en fait. Ça fait 10 ans que je travaille avec pas mal d'artistes. J'ai créé quelques collectifs, on a monté des expositions, créé des sites internet ou construit des soirées au cours desquelles je donnais des cartes blanches. Le jeu était pas plus de 10 minutes et c'était assez intéressant. Et au fur et à mesure, que ce soit sur, comment dire, au Bateau Phare, au Nouveau Casino ou à Beaubourg, lors des soirées des revues parlées. Et ce sont des gens que je réinvite régulièrement sur des projets. Et donc ce projet de Pavel, la fiction de Pavel qui existe depuis 2 ans, les gens me suivent. Donc Sim Silly fait vraiment partie de cette histoire.
D'accord. Thierry, je crois savoir que tu as commencé par écrire des chansons.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Au départ, j'ai écrit des chansons. Moi, j'ai été très influencé par les poètes dont je vous ai parlé, et puis d'autres plus romantiques. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que si je... Enfin, de façon assez naturelle, il y avait un décalage qui se faisait et qui faisait que les chansons partaient un peu en couille. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... J'avais l'impression que si je faisais des chansons, j'allais cultiver une blessure et que ça me paraissait, j'allais dire, plus noble d'avoir une espèce de conscience, d'extra-conscience et d'en rire, en fait, de prendre, et que la blessure était simplement l'expression de l'ego. Maintenant, j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que mon regard n'est plus le même. En tout cas, il y a un moment, ça m'a paru évident que faire des poésies, j'avais envie de me décaler par rapport à ne pas être primaire sur mon mal ou sur ma création, c'était une espèce de façon de se décaler de façon assez pudique, en fait.
Et du coup, comment t'es venu au One Man Show alors? Comment la transition s'est opérée?
En fait, j'étais dans un groupe autour d'un auteur qui s'appelle Claude Lemel et qui était l'auteur de Reggiani, qui a écrit aussi pour Joe Dassin, qui a fait des tubes pour Michel Fugain, pour Sardou, pour beaucoup de gens. Et donc, dans ce petit groupe, on écrivait des chansons et à l'intérieur, je me suis mis à écrire des sketchs, c'est-à-dire à faire dévier mes premières chansons. Et donc, on les chantait dans un petit cabaret qui s'appelait Le Cancan à Montmartre. Et c'est là que j'ai joué mes premiers sketch, j'ai monté un one-man show et voilà, j'ai rencontré des metteurs en scène, des coachs, des gens qui m'ont fait évoluer et toujours vers moi-même, dans le fait d'assumer simplement ce qu'on est, parce que ce qui est unique, en fait, c'est notre nature. Donc, ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est de l'assumer et de porter haut sa propre vulnérabilité. Je pense que c'est l'objectif, ou c'est ce qui fait qu'un comédien est précieux, en fait, et unique. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça.
Alors, dans ton parcours, les gens se souviennent peut-être qu'on t'a vu à la télé pendant un petit moment, dans Nulle part ailleurs.
Oui.
Est-ce que c'est... comment c'est arrivé, ça, justement?
En fait, j'ai un copain qui s'appelle Kader Aoun et qui m'a vu à la Comédie de Paris dans mon premier one-man show. Et donc, qui s'occupait à l'époque, qui avait lancé la série H, par exemple, qui s'occupait de Jamel, qui coécrivait ses spectacles. Et donc, qui m'a proposé au directeur des programmes de l'époque. Donc voilà, j'ai chroniqué lors des dernières années Nulle part ailleurs, même de la dernière, avec un personnage, Thierry Samitié, Sergi Pontoise. Bonjour, moi, la question qui m'interroge et qui posait des questions à rallonge, complètement à côté de la plaque, quoi.
Et après, t'as pas eu envie de continuer comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un peu un passage obligé, justement, quand on fait du one-man show, quand on est, entre guillemets, humoriste? Est-ce que c'est un passage obligé, la télé?
Non, on peut dire que c'est une chance si on l'utilise bien. Je pense que non, c'est absolument pas un passage utilisé. Il y a des très grands one-man show qui vivent bien sans forcément passer à la télé. Hein. Non, c'est pas un passage obligé, mais c'est une façon de faire connaître un personnage, ça c'est certain, quoi.
Ouais. Toi, Véronique, justement, quand on est dans le milieu de l'art contemporain, qui est un grand mot, mais comment on fait justement pour faire parler de ses œuvres? Est-ce que c'est difficile,
ouais. Il y a tellement de, on va dire, de moyens et de systèmes différents. Je pense que le fait d'avoir une galerie sur Paris, par exemple, on va dire la chose la plus classique, le fait d'être dans un réseau institutionnel, bien évidemment, de faire connaître son nom par des dossiers, parce qu'on a acheté, parce que différents moyens. Il y a aussi le système des associations et des collectifs, des événements un petit peu comme ça en marge. On dit underground, je crois aussi. Et puis, il y a beaucoup de réseaux, de complicité, de collectifs aussi, des gens qui se soutiennent, parce que ce n'est pas facile. Il y a énormément de monde, en plus, concentré sur Paris, bien évidemment, qui est la capitale en France, on va dire. Voilà. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai un parcours particulier autour de moi, des gens... il y a autant de parcours différents, on va dire, que de gens... Évidemment, on peut dire que quelqu'un qui sort des Beaux-Arts, qui ensuite enchaîne sur des événements institutionnels, aura un parcours où il sera plus visible en fonction des expositions qui sont médiatisées. Ouais. Après, ça n'a rien à voir avec la qualité de son travail, bien évidemment. Je ne veux pas dire que les gens qui sont institutionnalisés et montrés ne sont pas bons, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Ouais. Voilà.
Bon, on va continuer à discuter de tout ça après avoir écouté Jeanne Moreau avec Le vrai scandale, c'est la mort.
Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence. Le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces hommes, ces corps si doux, ses lèvres chaudes, ses genoux, ses mains souples, ses pieds agiles, ses yeux graves, ses yeux rieurs, cette poitrine où bat le cœur, ses artères, cette peau fragile. Le vrai scandale, c'est la mort, les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer ces femmes, ces hanches dociles. La larme qui se mêle aussi au milieu des cris de plaisir, les bras, les chevilles, les reins, les cheveux, le dos et les seins, l'ombre noire des secrets désirs. Le vrai scandale, c'est la mort, les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces enfants, ces mains en fleurs, les regards clairs, si vite en pleurs, les ventres doux comme des oiseaux, les doigts maladroits, légers, les mouvements vifs comme l'eau, leur rire, leur jeu, leur baiser, pourquoi.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, cette petite compagnie deviendra grande en compagnie de Véronique Hubert et Thierry Samitier. Alors moi, il y a quelque chose que, Thierry, que j'ai beaucoup aimé dans ton spectacle, c'est l'écriture. Je trouve que c'est un spectacle qui est très écrit. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'impro, justement, ou si tu écris beaucoup avant le spectacle.
Non, ça, y a des parties qui ont l'air improvisées. Non, je crois vraiment que les gens qui m'ont touché, influencé, je pense que C'était d'abord des auteurs. Par exemple, pour moi, Des Proches était un auteur. Puis même, je trouve que les personnages de Coluche, si on regarde les textes, il y a une cohérence et une force évidente. Et je pense que oui, j'ai été certainement influencé par des auteurs très souvent fous, très souvent décalés. Mais c'est vrai que ça a comblé parfois beaucoup de choses dans ma vie, oui.
Alors la mise en scène, c'est un one-man show, mais ça peut se rapprocher du stand-up un petit peu, parce que tu fais quand même participer les gens qui sont dans la salle au spectacle.
Oui.
Alors je crois que la mise en scène est de Françoise Falk.
Oui, tout à fait.
Donc
tout à fait.
Comment ça s'est passé la rencontre avec... Et le travail avec Françoise Falk?
En fait, ça s'est passé au salon du théâtre devant l'église Saint-Sulpice il y a un an. Vous voyez, on fête l'anniversaire. Et en fait, elle tenait le stand de la Comédie des Champs-Élysées. En l'occurrence, elle s'occupait un petit peu de la pièce du Petit Prince. Et donc, plein de symboles, en fait, magnifiques. Et voilà, donc, ça a été vraiment... On avait des points communs, comme un amour de la musique classique très pointue, en fait. Et on a eu des discussions sur certains personnages de la musique classique. Et en fait, des accointances très particulières. Et surtout, quelque chose d'extrêmement vrai et d'extrêmement ouvert, ce qui est pas c'est peut-être pessimiste que je dis, mais c'est pas forcément fréquent dans le milieu de sentir, j'allais dire, des ouvertures qui font que il y a aucune chose alambiquée dans le contact humain et dans le rapport humain, et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et je pense que la qualité essentielle de Françoise, c'est justement d'avoir été ouvert à mon personnage et de l'avoir laissé s'exprimer le plus possible. Je pense que c'est ce miroir-là dont j'avais besoin, c'est-à-dire le fait de prendre confiance justement dans son personnage, dans sa force, même dans sa fragilité, dans tout, quoi.
Ouais.
Je pense que sur un one-man show, en fait, la mise en scène réside beaucoup dans la qualité d'impulsion et l'énergie du personnage, plus que dans un schéma préétabli où on fait deux pas à droite, trois pas à gauche. Je pense que tout ce qui se passe avec le public, le contact, la confiance, l'espèce d'énergie qui découle de tout ça est extrêmement importante. Et je pense que c'est ce que Françoise Falk m'a permis de développer.
Ouais. Toi, Véronique, est-ce que justement Thierry parlait de ses influences quand il a commencé à écrire, est-ce que toi, il y a eu des gens importants comme ça qui t'ont donné envie de te lancer dans...
Alors, qui m'ont donné envie de me lancer...
Dans des choses artistiques, dans le dessin,
oui.
Dans le...
Non, mais ça,
dans les performances...
On pourrait dire que ça peut faire assez classique, mais bon, quand j'étais petite, voilà, ça peut remonter très très loin, en fait. Oui, bien évidemment. Alors, je vais commencer à la fac. C'est la faculté, effectivement, l'université, qui m'a permis de découvrir un nombre de choses incalculables, l'ethnologie, la musicologie, le cinéma. Et je suis partie dans cette façon de butiner, ne jamais me spécialiser vraiment, la sérigraphie, enfin, là, que des choses en d'ailleurs, et puis de toucher à tout comme ça, je me suis dit, bon, je vais pas être professionnelle, je vais pas connaître par cœur tous ces auteurs ou ces techniques.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire,
au moins, ça ouvre des champs.
Être professionnelle, justement, de ce métier-là.
Je pense que maîtriser un outil ou maîtriser un sujet parce qu'on l'étudie à fond, c'est ça être professionnel, savoir l'utiliser et en jouer. Je pense comme n'importe quel, je pense même au logiciel aujourd'hui, un logiciel, quand on veut construire quelque chose, il faut vraiment connaître son outil. Après, justement, dans l'histoire de la rébellion, je reviens sur l'histoire de la rébellion, quand on n'a pas les moyens techniques du cinéma ou parce qu'effectivement on n'est pas soutenu par un budget, on trouve n'importe quoi pour y arriver. Et je crois que quelque part, au bout de 10 ans maintenant, on va dire, de travail, même si ça fait que quelques années, on va dire 4-5 ans que j'ai un fil rouge, je me rends compte que cet acharnement de vouloir quand même m'exprimer et du coup d'essayer de m'en sortir, je crois que oui, j'ai réussi certaines choses. J'ai une liberté, ce qui peut agacer, bien évidemment. Écrire un bouquin CD-ROM, éditer, sortir un CD, alors qu'aujourd'hui tout le monde vous dit c'est du MP3, il faut absolument sortir. Voilà, il y a quelque chose. Et puis réussir techniquement, il faut dire juste une petite anecdote. Quand j'ai été travailler avec l'ingénieur son à Station Mir et que j'ai apporté les bandes parce qu'une partie du CD est faite des bandes-sons de mes vidéos, je chantais dans le caméscope. Donc l'origine, les fichiers de départ sont des choses hurlées, susurrées, chantées dans sur une bande-son de cassé des vêtements numériques. Ce qui fait qu'un ingénieur son vous dit, je ne vais pas pouvoir travailler ça comme quelque chose avec un groupe professionnel. Et quand même, on en arrive à un résultat qui fonctionne. Voilà.
Justement, on va écouter alors un petit extrait qui est très court, en fait, qui dure à peu près une minute, une chanson qui s'appelle Parasiste.
Oui, une petite comptine, qui fonctionne depuis des années et que je mixe lors de soirées, que ce soit en boîte ou que ce soit lors d'événements artistiques dans des écoles d'art. Et c'est vrai qu'elle fonctionne bien, cette petite ritournelle.
Et on l'écoute de suite.
Puisqu'il le dit, et puisqu'elle le dit, puisqu'il le dit, et puisqu'elle le dit, puisqu'il le dit, et puisqu'elle est parasiste. Elle n'est pas raciste, il n'est pas raciste, elle n'est pas raciste, puisqu'il le dit, et puisqu'elle le dit, ils ont même un copain arabe, donc ils ne sont pas racistes, il n'est pas raciste, elle n'est pas raciste. Il n'est pas raciste, elle n'est pas raciste, puisqu'il le dit, et puisqu'elle le dit, ils ont même un copain arabe, donc ils ne sont pas racistes, donc ils ne sont pas racistes, donc ils ne sont pas racistes.
Donc c'était Pas raciste par Véronique Hubert, une petite comptine d'une minute.
On va dire Utopia.
Utopia, ouais.
Parce que c'est quand même récurrent chez elle. Les Spotniavs sont gris et ils ne supportent pas l'alcool. Mais ça faisait partie d'une vidéo ou de deux. Enfin, à chaque fois, elle revient régulièrement, cette petite ritournelle, où effectivement, j'enfonce des portes et par exemple, les femmes pleurent plus que les hommes, les homosexuels, c'est une maladie, etc. Voilà. Je remets comme ça régulièrement sur un plateau des sujets de société qui... allons-y, on va en discuter, on va s'en moquer... par le biais d'une petite fée qui soit est saoule, soit très active ou réactive et qui agace. Voilà.
Donc on va écouter une autre chanson qui s'appelle Couloir.
Alors c'est un morceau sonore, je sais pas, chanson, et c'est compliqué. Ça, effectivement, Couloir, c'est un montage son qui effectivement est la bande son d'une vidéo.
Qu'on peut trouver d'ailleurs sur ta page MySpace.
Oui, aussi, voilà.
Donc si les gens veulent aller voir, on donnera toutes les adresses.
Toutes les adresses tout à l'heure. Oui.
Donc on écoute la bande son de Couloir.
Les empreintes digitales retrouvées sur... Et les explosifs découverts ne sont pas
dans le coffre.
Un élément qui joue en sa faveur est...
grave et les forts travaux de vent.
Travaux.
La basse Normandie et la Picardie ont de leur côté encore les pieds dans l'eau.
Mise en examen
des bordes de joie.
Complicité de commerce illicite. D'armes, il y a 500 personnes en examen le 23 décembre dernier.
Pour recel d'âme.
Des bordes de joie.
Maintenant, il faut que tu t'en ailles. Il faut...
Des bordes de joie.
Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de...
Des bordes de joie.
Tant coude.
Des bordes de joie.
Contrer le président.
Tant coude. Des bordes de joie.
On est rebelles après.
Des bordes.
Mais les rebelles n'attendent pas grand-chose.
Premier étage, et les vents violents.
Pas grand-chose de cet échange.
Des bordes de joie.
Et vous pensez que...
Mais hier soir...
Nu dans la perfume de la chape.
La France peut.
Des bordes de joie.
Tant coude.
Après.
Maintenant, il faut que tu t'en ailles, il faut que...
Après.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Donc on vient d'entendre Couloir par La Fée Utopia toujours ou Véronique ?
Oui, là c'est ça devient compliqué. Non, il n'y a pas du tout la Fée Utopia dans cette bande son.
Bon, en tout cas, c'est sur le c'est sur
oui,
l'album
Amplisexy. Oui, mais c'est sur le CD, voilà, Amplisexy, qui est une espèce de, j'appelle ça une compilation, même si c'est un mot à la mode, mais c'est parfait parce qu'effectivement, c'est un mélange de des bandes son que j'ai fait depuis pas mal d'années qui illustre ou qui accompagne les vidéos ou qui en tout cas matérialise l'ambiance des vidéos. Et sur ce CD, on retrouve des morceaux de Emmanuel Delpy, qui est donc le musicien qui a travaillé avec moi, mais également en fait. L'intervention de Nina Resberg, qui est une artiste qui endosse le rôle de Female Big Bang, un personnage qu'elle a inventé depuis pas mal d'années pour La Légende de Pavel et de façon autonome dans sa démarche artistique. Et aussi, il y a Pascal Lièvre avec le morceau Chips and Sex, donc qui est aussi un peu parodique. Et ce sont des gens qui sont intervenus sur scène au Point Éphémère il y a quelques années. Donc je souhaitais vivement qu'ils m'accompagnent sur ce CD.
D'accord. Voilà. Toi Thierry, tu as réalisé un court-métrage aussi ?
Oui, tout à fait. Hold Up. Oui.
Hold Up. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre justement, le fait d'avoir envie d'avoir plusieurs activités artistiques et l'envie d'aller.
Oui, bien sûr. D'autant plus que j'ai appris grâce à ce court-métrage que l'utilisation de la caméra changeait complètement, j'allais dire, la respiration des personnages. En fait, Hold Up, c'est l'histoire d'un gangster qui rentre dans une boulangerie avec une violence extrême, qui dit à la boulangère tu fermes ta gueule, tu mets l'argent dans le sac, si quelqu'un rentre, tu fermes ta gueule, et puis je vais prendre deux baguettes aussi. La boulangère, cuite ou pas trop cuite ? Pas trop cuite. Ah mince, j'en ai que des cuites. Bah alors cuite ! Et en fait, c'est un mec qui se fait désarmé par l'humanité et l'assise d'une boulangère. On sent que le mec est pas très sûr de lui. En fait, comme en fait beaucoup de gangsters ou dans des cas comme ça, sauf que là, c'est poussé vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que la boulangère s'immisce dans la faille du mec de façon instantanée et malgré elle. Je veux dire, les dialogues sortent de leur bouche sans qu'ils soient calculés. Et c'est vrai que ça a été pour moi un super bel apprentissage. Il est sélectionné dans beaucoup de festivals dans le monde, ce qui pour moi est assez jubilatoire de savoir que des Américains regardent mon truc dans la petite boulangerie et c'est vraiment chouette quoi.
Ouais, c'est parce qu'ils ont vu Amélie Poulain, donc du coup ils aiment les boulangeries françaises maintenant.
C'est possible. Non, mais je oui, bien sûr, c'est un autre mode d'expression. Et d'ailleurs, on m'a dit souvent dans mes pièces que en fait c'était un langage très souvent adapté à l'expression cinématographique.
On imagine de suite, ouais. Moi, c'est vrai que j'y ai pensé pendant le spectacle.
Des formes d'intimité où justement on n'a pas besoin de pousser les choses, de pousser la voix, de pousser le souffle, et où les choses peuvent se jouer dans une autre respiration, plus intime, plus c'est beau de quand on souffle à l'oreille de quelqu'un un mot, on peut pas le faire au théâtre, c'est quelque chose, alors qu'on peut dire beaucoup de choses en soufflant à l'oreille.
Mais par exemple, le sketch où tu es en boîte de nuit, oui, c'est très cinématographique, par exemple. Enfin, c'est vrai qu'on imagine complètement la scène.
Bah, disons que c'est un sketch assez visuel. C'est-à-dire que le mec a pas besoin de parler. Bon, c'est un pastiche de nos maladresses lorsque, justement, on est dans une position d'avidité dans une boîte. Finalement, les choses ne sont pas poussées, je veux dire, ne sont pas caricaturées. Simplement, la situation est jouée, elle est drôle dans elle-même, quoi.
Toi, Véronique, tu fais de la vidéo aussi, donc puisqu'on parlait de, enfin, tout oui, à l'heure, couloir, donc c'est la bande-son d'une...
C'est vrai que la vidéo, qui est un moyen, on va dire pas facile, mais bon, effectivement, accessible, de pouvoir tourner dans la même journée, récupérer, monter avec les logiciels, de pouvoir transformer sa voix, de continuer la fiction des personnages que j'ai mis en place. Oui, et en plus, la vidéo, en fait, j'y suis venue vraiment naturellement, parce que le mélange de l'image, du son et du texte, c'est quelque chose que j'avais déjà au travers des dessins, des sérigraphies, des photos, j'arrivais pas. Il y a quelque chose d'assez classique. On nous dit choisir entre la littérature, l'écrit et l'image. C'est quelque chose d'assez français, je pense, je ne sais pas. Et j'ai toujours refusé de donner une priorité, comme si on était incapable de choisir. Bah oui, je suis incapable de choisir, parce que pour moi, c'est évident. Il y a comme une forme de bande-son de la vie, en fait, dans le son que j'entends, associé aux images que je vois. Je veux retranscrire ça en vidéo et puis, effectivement, y mélanger toutes les références, si je peux, que j'ai ou que j'ai acquises ou que je suis en train d'acquérir.
Alors que justement, qu'est-ce qui différencie, on va dire, un court-métrage cinéma plus classique d'une vidéo artistique ? Parce que justement, pour nos auditeurs d'Aligre FM 93.1,
je ne sais pas si je suis apte à, comme ça, en 30 secondes...
Non, mais comme ça, de votre ressenti à chacun...
Il y a l'idée du scénario du cinéma avec un développement assez traditionnel. J'ai eu de nombreuses discussions là-dessus. Qu'est-ce que c'est le cinéma? Qu'est-ce que ça peut être la vidéo? Je pense que les deux utilisent les mêmes moyens, on va dire, l'image, le son, acteur, pas acteur. C'est du cadrage, en fait, du cadrage avec du visuel et la bande-son qui peut être importante ou pas, j'en sais rien, en fonction du parti pris. Je pense qu'il y a une histoire de... Bah, l'histoire, justement. Ça dépend d'où l'on vient, quel a été son parcours et les références. Je pense qu'en vidéo, surtout... Chez pas mal d'artistes, on retrouve énormément de références de cinématographie dans l'histoire, la narration, le cadrage. Est-ce qu'il y a du bouger, pas du bouger, des gros plans? Et puis l'idée d'acteur aussi. Est-ce qu'il y a des acteurs ou pas? Il y a énormément d'artistes qui se mettent en scène. Alors, est-ce que c'est un parti pris ou une histoire de manque de moyens? En tout cas, la vidéo nous permet... de faire des produits de A à Z, on peut les faire, le produire soi-même, le monter et le présenter tel quel. Le cinéma, c'est quand même une grande, grande entreprise. Sur un tournage, vous avez toute une équipe, c'est monstrueux. Il y a une pré-production, une post-production. Il y a ça aussi qui rentre en jeu.
Thierry ?
Moi, je me suis rendu compte que, en fait, un court-métrage est réussi. Si le court-métrage réside dans une tension vers une chute, c'est-à-dire vers une résolution, mais que c'était très difficile de faire rentrer des gens dans un univers à travers le court-métrage. Justement, le fait d'avoir réalisé mon court-métrage a fait que la veille, en fait, j'ai regardé des films que j'aimais bien, notamment Les Monstres, écrits par Ettore Scola. Et puis, il y en a un que je trouve énorme. Ça se passe pendant la guerre de 40. Et il y a des Allemands qui sont en train de fusiller des résistants contre un mur. Et donc, il y a un mec dans la salle qui est avec sa femme qui fume, tout ça un peu. Et à la fin, donc, vous voyez la violence des résistants qui tombent contre le mur, enfin, fusillés. Et puis, donc, le mec dans la salle dit à sa femme, tu vois, le mur, là, c'est exactement ça que je voudrais pour notre nouvelle maison, avec le petit rebord, comme ça. Et là, j'ai compris tout de suite, et je me suis rendu compte, ça m'a donné une espèce d'élévation qui m'a fait prendre conscience que, en fait, les courts-métrages qui sont réussis, c'est vraiment une espèce de tension vers la chute, parce que c'est pas grand-chose, c'est 5 minutes, c'est 7 minutes. Faut pas avoir, j'allais dire, l'ambition d'emmener les gens sur 5 minutes, c'est très particulier. Mais sinon, en ce qui concerne le travail de l'image, moi, j'ai quelque chose dans le cinéma qui m'a énormément touché par la beauté et par la façon dont c'était travaillé. C'est la fin de Taxi Driver, où De Niro regarde dans son rétroviseur. Et en fait, dans le rétroviseur, vous avez la ville de derrière et vous avez la ville devant. Il y a une espèce de petite décalage comme ça, et je trouve que Scorsese est un artiste, mais complètement hallucinant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de revoir ses films, de me rendre compte qu'au deuxième plan, au troisième plan, tout était chiadé au millimètre, et que finalement, ce qui fait la force de ce mec, qui à mon avis restera comme un monstre sacré, c'est la façon artistique dont tout est travaillé, quoi. Et pour moi, un cinéaste, un réalisateur comme ça, c'est aussi un artiste vidéo.
Ouais.
Oui, parce que je pense que ça, c'est aussi parce qu'on a besoin de mettre des limites ou de mettre des gens dans des cases. Puis c'est normal, c'est plus sécurisant aussi d'avoir des repères. Mais je reviens sur la chute, ce que tu dis, Thierry. C'est donc toi, souvent, ce qui t'intéresse ou ce qui t'inquiète, c'est la chute, la tension vers la chute. Ce qui est important, c'est la dernière image. C'est ça.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, en fait, la façon dont un court-métrage, c'est quelque chose, comme le nom l'indique, de très court. Et en fait, la façon... Moi, je crois qu'une œuvre m'intéresse à partir du moment où je n'en sors pas intact. C'est oui. Simple. Et je me suis rendu compte que dans les bons courts-métrages que j'ai aimés, j'ai vu des réalisateurs qui essayaient d'imposer une espèce d'univers, mais qu'en réalité, en 5 minutes, je ne sais pas si on peut rentrer vraiment dans un univers. Et je me suis rendu compte que les choses vraiment, moi, qui me piquaient sur 5 minutes, c'est lorsqu'il y avait une espèce de tension qui nous amenait sur un contre-pied qui faisait qu'à la fin, même si ça ne durait que 5 minutes, il y a quelque chose qui nous reste et qui a un goût dans la bouche. Bon, c'est purement personnel, hein, parce que ça m'est aussi arrivé d'aller justement voir des vidéastes, comme on dit aujourd'hui, dans des salons, faire des choses qui, dans le contexte d'une exposition, m'ont touché parce que j'étais dans le contexte d'un univers. Oui, c'est ça, c'est exactement comme Picasso, par exemple. Picasso, moi, je suis pas rentré dans son univers, sauf le jour où je suis allé à Barcelone et où je suis rentré dans ce musée et où j'ai vu, j'allais dire, toute l'évolution et où je suis rentré dedans. Une fois que je rentre dedans, par exemple Woody Allen, je peux voir un moyen Woody Allen ou un mauvais Woody Allen, et pourtant je suis toujours touché parce que c'est toujours l'espèce de regard du mec qui me parle avec sa dérision, son auto-dérision, et qui fait que j'en sors jamais intact parce qu'il y a eu une connivence qui s'est produite. Mais cette connivence sur 5 minutes, sur un programme court, c'est très, très difficile à créer si vous connaissez pas l'univers de la personne.
Ouais. Je pense que ça a à voir aussi avec la mise en espace, la scénarisation de la vidéo, en fait, des grands murs où en fait ça intègre une mise en scène générale, où il peut y avoir d'autres choses, des sculptures en fonction de ce que met en place l'artiste. C'est pas, la vidéo aussi n'est pas seulement programmée dans des salles de cinéma, ne reprend pas la posture normale du spectateur assis dans un coin ou devant un écran. C'est pour ça que la mise en boucle, par exemple, de quelques secondes de Ange les Chias, de Douglas Gordon, qui en plus démonte un peu le mécanisme du cinéma, c'est évident qu'on est très 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 loin des courts-métrages qui voudraient faire en tout petit ce que fait le cinéma en grand. Et en plus, il y a l'idée que le court-métrage est le passage obligé pour les réalisateurs de cinéma. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est assez complexe, ces relations. Mais l'idée de la chute, je trouve ça, c'est assez amusant, parce que quand je ressors de films, que ce soit justement en ce moment, je m'intéresse beaucoup, ça fait un moment, mais au cinéma de Kiyoshi Kurosawa, par exemple, le jeune Kurosawa, qu'on appelle le jeune Kurosawa, et c'est des films qui sont étalés sur des temps réels avec des montages assez loin. Enfin, le cinéma asiatique a un montage qui est assez différent du montage occidental dans les temps réel et les prises de vue, en fait, les cadrages. Et c'est vrai que même si la chute, peu importe la chute, je crois qu'il y a un développement tout au long du film et une ambiance qui font que c'est, on en reste effectivement pas, on reste pas indemne quand on sort de ce genre de cinéma. Et des fois, j'oublie même la fin. Enfin, je veux dire, peu importe la fin, c'est effectivement, c'est les différentes, les micros, enfin, les choses qui se sont développées autour et l'ambiance autour dans ce cinéma que je trouve passionnante. Et des fois, qui sont à l'encontre du cinéma qu'on peut voir, ce que je trouve passionnant d'ailleurs. Hein. Toutes les possibilités de cinéma. C'est pour ça que des fois je suis stressée en ce qui concerne les références, c'est que j'ai l'impression d'en avoir des millions dans la tête. Je voudrais en avoir encore plus, et c'est très 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 difficile de faire le ménage pour en parler.
Bon, en tout cas, au-delà de vos références, il faut aller voir vos œuvres respectives. Donc Thierry Samitier, donc ça se passe au Petit Palais des Glaces du mardi au samedi à 20h.
Tout à fait.
Voilà. Véronique Hubert, on pourra voir certaines de tes
oui, alors les choses sont prévues œuvres, voilà. À la rentrée, qui va être feu d'artifice, comme je dis. La galerie Kwang, la galerie Vanessa Kwang, qui me représente à Paris, ouvre ses nouvelles portes à l'automne. Et donc, ouais, il va y avoir une soirée prévue pour le CD, justement, à la rentrée, différents autres événements. Et puis, une exposition personnelle prévue en mars 2008. Alors, la nouvelle galerie sera dans le Marais. Nous n'avons pas encore tout à fait l'adresse. Mais on peut retrouver les informations sur le site de la galerie, galerie-kwang.com, avec les autres artistes représentés, évidemment, dans cette galerie.
Et donc, on peut voir sinon sur tes différents sites internet.
Alors, il y a les différents sites internet, oui, qui sont un petit peu tentaculaires. Le plus important maintenant, c'est le site véroniquehubert.free.fr. Mais par rapport à Pavel, justement, avec des extraits des soirées du CD, il y a aussi le site missing.pavel.free.fr, la page MySpace, tout simplement MySpace avec mon nom et mon prénom accroché derrière. Et puis bah, les autres, on les trouve en lien de toute façon sur les différents sites.
Thierry, c'est pareil, un site internet.
Exactement, et un MySpace. Mon site internet, tu n'as pas mon site internet? Ah oui, alors attendez, tu peux chanter une petite chanson?
Je pense que si on tape Thierry Samitier.
Voilà, si vous tapez Thierry Samitier, vous aurez normalement mon site internet. Mais je vais faire encore mieux, c'est que c'est www.thierry-samitier.fr.
Voilà, comme ça on a toutes les informations, on retrouve tout ça sur les sites.
Est-ce que je peux juste parler d'une revue sonore que j'aime beaucoup? Évidemment, j'ai un petit morceau dessus, donc j'en parle comme ça, c'est assez égocentrique, mais vibrofiles.com, qui vient d'éditer son quatrième numéro, avec justement des sons qui sont à la limite de la musique, nos musiques. Voilà, Vibrofiles.
D'accord. Merci. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus dans l'émission. Je vous souhaite bon courage pour la suite.
Merci.
Et nous,
vous,
on se retrouve
merci
dans 15 jours. Bye bye.
Au revoir.
Malgré la pluie battante, sans procès d'intention, être repos de bon, en exauçant nos rêves de baisers sur les lèvres, de retour à la norme, dans le fond et la forme des lendemains qui dansent, sans accroc ni offense, des lendemains qui chantent sans heure de fil d'attente. Le long des golfs longs, ne plus toucher le fond, puis faire la paix des bras. grève, on observe une trêve à la tombée du jour, son couvre-feu ni tambour, des lendemains qui dansent sans accroc ni offense, des lendemains qui chantent des histoires palpitantes, un unico, les ondes des fruits de saison, sans céder le passage et sans excès d'orage, ni repère ni remords, assis à la place du mort, des lendemains qui